Après avoir prié en direct de Lourdes, devant la grotte avec les priants du chapelet, nous revenons maintenant à Liège et c'est Laurent Verporten qui nous entraîne à la découverte des images de la maternité sacrée dans la peinture avec Elisabeth Lestrange, pardon, dans son émission « Point de repère ».
Point de repère, regard hors piste. Une émission présentée par Laurent Verporten.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RCF Liège. Elisabeth Lestrange, bonjour.
Bonjour.
Elisabeth Lestrange, vous êtes historienne de l'art et vous avez publié cette année un ouvrage qui est le fruit de vos recherches, des recherches que vous avez menées dans le cadre d'une thèse présentée à l'université de Leeds, en Angleterre, absolument. À l'heure actuelle, vous êtes ici à Liège, vous êtes chargée de recherche dans le département d'histoire de l'art. Ce livre, nous allons en parler aujourd'hui, nous allons parler en fait du sujet qui vous occupe actuellement. J'en traduis le titre, puisque c'est un livre qui a été publié en anglais, vous êtes britannique, « La sainte maternité, genre, dynastie et culture visuelle à la fin du Moyen-Âge ». Alors en fait, dans cet ouvrage, Elisabeth Lestrange, vous vous livrez à une analyse pointue des images produites aux alentours du XVe siècle et on va le voir dans le cadre de cette émission, vous tissez des liens et vous faites toute une série d'observations, non seulement sur des tableaux, non seulement sur des images, mais toutes ces observations vous amènent à remettre en question une certaine interprétation de ces documents, notamment en faisant référence à un certain nombre de rites. Nous allons en parler. Mais justement, avant d'aller dans le concret, pour réaliser ce travail, vous vous êtes en fait appuyé, inspiré d'une méthode d'un autre historien de l'art anglais. Il s'agit de Michael Baxendale, qui est d'ailleurs décédé, je pense.
Au mois d'août, oui.
Au mois d'août dernier. Alors, il est très connu pour avoir introduit une nouvelle méthode et une notion qu'on appelle en anglais le « period eye ». Alors, si je traduis de manière totalement, enfin, sans interprétation, je dirais, l'œil de la période, l'œil du temps, le point de vue de l'époque.
Du 14e.
L'œil du 14e.
Alors, 15e, plutôt.
Alors, évidemment, il est difficile d'expliquer totalement ce concept ou cet outil. On ne sait pas trop s'il s'agit vraiment d'un concept. Mais comment est-ce que vous, Elisabeth Lestrange, vous le décririez?
Bon, Baxendale, il a publié son livre sur l'œil du Quattrocento, comme ça s'est dit en français, dans les années 70. Et dans cet ouvrage-là, qui s'appelle...
L'œil du Quattrocento.
Oui, l'œil du Quattrocento. Il décrit une façon pour comprendre les images de l'époque. Et là, donc, il s'appuie non seulement sur les images même, mais sur ce qu'on a appris à l'époque pour pouvoir déchiffrer une image. Donc, par exemple, il prend l'exemple d'un marchand qui est éduqué pour pouvoir... distinguer la différence entre les volumes des objets et
oui, des tonneaux,
des coupes, par exemple, oui, ou bien un médecin qui est très très sensible aux proportions du corps, par exemple, d'un animal ou d'un corps humain, et donc il propose que dans les images, les peintres faisaient allusion à ces connaissances des gens. Surtout des marchands.
Susceptibles d'acheter, en fait, les tableaux, en fait.
Oui, les gens qui ont les moyens d'acheter des ouvrages.
En fait, ce qui est fascinant dans cet ouvrage de Baxendale, c'est qu'il commence cet ouvrage en disant qu'en réalité, on ne se rend pas compte que les images qui nous viennent de ces époques, eh bien, nous ne possédons peut-être plus exactement les connaissances pour véritablement les comprendre. Oui. Et il nous propose donc une plongée dans cet univers, une plongée qui va donc analyser les tableaux, non pas simplement d'un point de vue esthétique en disant la valeur symbolique des couleurs, la construction, etc., même si toutes ces données sont reprises en compte dans les analyses, mais il s'appuie sur d'autres domaines, en fait.
Oui, donc il dit par exemple qu'il y a peut-être, je crois que c'est cette version de l'Annonciation, cette étape de l'Annonciation que les gens allaient comprendre à l'époque, et nous, on ne les connaît plus, donc... Et voilà, donc il essaie de, par rapport, en s'appuyant sur la littérature de l'époque, de nous le décrire maintenant, donc de nous faire comprendre que voilà, il y avait des sept étapes dans l'Annonciation à la Vierge Marie, et que donc voilà. Et donc, il s'appuie aussi sur d'autres...
Sur les gestes des prédicateurs.
Les gestes des prédicateurs, ou bien sur les gestes pour pouvoir danser, par exemple. Comment on dansait à l'époque ? Est-ce que les gestes des mains et des jambes, est-ce que ça a un lien avec les images qu'on trouve dans les...
Alors,
tableaux,
évidemment, il y a aussi ces références à Piero della Francesca, qui était aussi, comme beaucoup de peintres à l'époque, il était à la fois marchand, géomètre, et tout cela.
Mathématicien.
Et donc, l'impression parfois géométrique qu'on retrouve dans ces tableaux correspondrait en fait à l'état d'esprit, non seulement de Piero della Francesca lui-même, mais aussi de toute cette caste de gens, toute cette classe sociale qui, en fait, reproduisait dans les tableaux leur manière de voir les choses. C'est en fait, avec Max Sandel, on doit se mettre en quelque sorte dans l'état d'esprit des gens pour comprendre les tableaux. Il y a quelque chose de cela. Alors ça, c'est le period eye, l'œil de cette période. Alors dans votre ouvrage, Elisabeth Lestrange, vous reprenez une notion qui s'en rapproche, mais vous parlez d'un œil situationnel.
Ouais.
En quoi est-ce que cette notion s'inspire de Max Sandel et en quoi est-ce qu'elle en diffère ?
Il y avait beaucoup de critiques de l'ouvrage de Max Sandel parce qu'il parle que des marchands, des princes, des gens de la cour. Et donc, l'œil du Quattrocento, si vous voulez, c'est l'œil des hommes, des gens privilégiés de l'époque. Et donc, je me suis servi de son idée, de sa méthodologie, mais en le modifiant un petit peu. Parce qu'on a beaucoup critiqué Max Sandel de ne pas avoir parlé du genre. Et donc, que les femmes sont exclues de son idée de pouvoir comprendre les images du 15e. Et donc, en essayant dans mon ouvrage de comprendre comment les femmes voyaient certaines images du 15e siècle, je me suis dit, la méthodologie de Max Sandel, c'est très très bien fait, mais il ne s'agit pas des femmes. Donc, est-ce qu'il y a moyen de nuancer un peu sa méthodologie pour inclure ou pour pouvoir penser aux femmes?
Absolument. Alors en fait, on va voir que ça, c'est une manière justement de réutiliser Max Sandel et peut-être de le compléter, d'introduire en fait à l'intérieur de son système le genre en tous les cas féminin. Mais ce que, en tous les cas pour ma part, je trouve très intéressant dans votre travail, dans votre livre, c'est que bien sûr vous réintroduisez le genre, mais d'une manière qui peut-être étonnerait même des intellectuels qui font des études de genre, parce que vous arrivez à des conclusions, je dirais qu'une certaine critique parfois féministe n'aurait pas trop. Enfin, on va en parler. Alors, j'ai commencé cette interview en disant que vous analysiez, entre autres, des images qui ont été produites à la fin du Moyen-Âge, donc c'est-à-dire aux environs du 15e, 16e siècle, c'est ça ?
Ouais.
J'ai utilisé exprès le terme d'image, parce qu'en fait, il y a plusieurs types d'images.
Ouais.
Elisabeth Lestrange, lesquelles ?
Oui. Bon, d'abord, je me suis penchée sur les images qui se trouvent dans le livre d'or, mais... En gros, il faut aussi faire appel à d'autres images, telles que des tableaux et les images qui se trouvent aussi dans la littérature, donc des images littéraires qui s'inspirent des images même ou au contraire aussi. Donc,
Absolument. Alors, juste pour nos auditeurs, les livres d'or, les livres des ors, de quoi s'agit-il en fait ?
Un livre d'or, c'est un peu le best-seller du Moyen-Âge, on a déjà appelé comme ça. C'est un livre de prière, souvent illustré, souvent enluminé avec des images de la vie de Jésus, la vie de la Vierge Marie. Et c'était la façon pour que les laïcs prient comme les moines. Donc, on dit heures parce que ce sont les heures canoniques.
C'est ça,
on
exactement.
Comme ça.
Oui, tout à fait.
Et donc, on a les matines, l'aude, etc. Et donc, on a aussi dans ce genre de livre, parfois, des prières ajoutées qui sont personnalisées ou bien une image qui est personnalisée pour, qui est commandée par le patron ou par...
Et qui offrait ces livres à qui ou qui les recevait de qui?
Ben, c'était possible d'en commander dans les ateliers. Parfois, on les donnait comme cadeau de mariage.
À certains moments de la vie, peut-être.
Oui, c'est possible. On dit que si une famille avait un livre dans la maison, c'était un livre d'heures. Et donc, c'était le livre de la famille. Il y avait aussi un calendrier dedans. Donc, parfois, on ajoute non seulement les noms des saints, les fêtes, mais aussi la naissance d'un enfant ou le décès de quelqu'un ou le mariage de quelqu'un. C'est noté aussi dans le calendrier.
Alors, on va voir que vous avez particulièrement analysé dans votre ouvrage ces livres d'heures, mais comme vous le dites aussi des tableaux, on va en reparler tout de suite après une pause musicale.
Ok.